Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Un premier regard sur le Brexit avec Douglas Murray. Bonjour. Douglas Murray, pour le présenter au public français, est un écrivain, journaliste, essayiste extrêmement connu en Angleterre. Il a publié un ouvrage traduit en français, L'étrange suicide de l'Europe, immigration, identité, islam, aux éditions du Toucan. Il sera traduit par Emmanuel Rivière. Douglas Murray, aujourd'hui, quel sentiment avez-vous face à ce qui passe en France, en tout cas, comme étant le naufrage du Brexit?
Firstly, it was a great pleasure to be with you this morning.
Je suis ravi d'être ici avec vous ce matin.
I think it's a very peculiar situation we're all in.
I spend most of my time particulière. Je passe la plupart de mon temps à l'extérieur des États-Unis, du Royaume-Uni. Ça fait plusieurs années que je fais ça. Normalement, je vais dans plusieurs pays par semaine. Je suis en France. Grande difficulté, c'est d'essayer de savoir si cette stabilité est liée ou si c'est complètement séparé dans chaque pays. Et ce que je propose, c'est qu'il y a un lien, c'est-à-dire que dans chacun des pays, nous sommes dans une position difficile, c'est-à-dire que le public, jusqu'à un certain point, on le gronde, c'est l'élite politique qui le gronde, et ceci ressort de différentes façons, de différents endroits. En Grande-Bretagne, nous avons voté pour quitter l'Union européenne, et nos élites politiques pensent que l'on n'a pas pris la bonne décision, que ce n'est pas la décision correcte. Et dans d'autres pays, y compris la France, le public, vraiment, les gens au pouvoir pensent qu'il a tort et qu'ils s'expriment différemment. Donc ce n'est pas forcément en votant, en tout cas pas seulement, mais partout, c'est un peu la même version de la même histoire.
D'ailleurs, je vais vous poser une question indiscrète. Douglas Murray, vous avez voté pour le Brexit ?
Oui, oui, j'ai voté pour le Brexit. Et je suis d'ailleurs ravi d'avoir voté pour.
Vous avez un grand sourire.
Oui, je souris parce que, en partie, je rigole, en fait. C'est très drôle pour moi, même si c'est un peu sombre. Parce que c'est la première fois dans la démocratie de mon pays que nous demandons quelque chose et que l'élite n'accepte pas notre verdict. Et je rigole parce que sinon je pleurerais. C'est une situation incroyable. Et parfois, dans le passé, j'ai voté pour les travaillistes, d'autres fois pour les conservateurs. Mais jamais, lorsque la majorité du public voulait quelque chose, jamais on nous a dit que c'était pas possible, qu'on allait faire en sorte que vous ne puissiez pas avoir ce que vous vouliez. Donc je rigole, mais c'est parce que c'est une situation de comédie très sombre.
Je vais quand même vous offrir la possibilité sur France Culture de vous excuser ou de regretter votre vote. Est-ce que vous revoteriez aujourd'hui pour le Brexit, Douglas Murray?
Oui, je voterai toujours pour le Brexit et pour les mêmes raisons que j'avais à l'époque. Tout d'abord, parce que ce n'est pas pour les raisons que l'on dit partout, ce n'est pas pour les raisons des choses sur lesquelles on nous a menti, et pas parce qu'on est stupide, qu'on ne s'est pas assez renseigné, on n'est pas raciste, on n'est pas des gens qui détestent tout le monde, et on veut rester dans une île et manger que de la nourriture anglaise et ne lire que de la littérature anglaise, et surtout on ne veut pas manger que de la nourriture anglaise. Mais c'est plutôt parce que les Britanniques et moi-même, nous avons senti cela très fortement. Nous pensons qu'il y a un pacte très important au sein de notre démocratie et c'est que nous pouvons changer le parcours. Nous savons comment voter, nous savons quand on vote, nous savons comment décider que les gens ne sont plus élus et c'est très important, c'est un pacte très important qui existe depuis des siècles. Et c'est la première fois, comme je vous disais, depuis quelques années en tout cas, que nous avons dit que nous ne pensons plus comprendre comment on nous gouverne et on voudrait le comprendre. Je vais essayer de vous donner un exemple très rapide. Depuis notre vote pour le Brexit, le public britannique a critiqué la classe politique, l'a puni. Et c'est peut-être correct, puisque c'est un moment très difficile pour nous, mais la Commission européenne a perdu le deuxième plus grand contributeur au budget de l'Union européenne, et rien ne s'est passé, personne n'a réfléchi, tout le monde reste, tout le temps. Et finalement, ceci, c'est l'une des raisons, une très bonne raison pour lesquelles j'ai voté pour quitter l'UE. Je ne souhaite pas avoir des structures politiques qui ne répondent pas, qui ne réagissent pas au public. Si ces structures politiques ne le font pas, le public n'a qu'une réponse. Et c'est au-delà du bulletin de vote. Et dans ce pays, nous ne faisons pas cela.
Mais alors, justement, on a l'impression, Douglas Murray, que cette Europe que vous détestez, en tout cas, c'est ce que vous dites dans L'étrange suicide de l'Europe, votre livre qui est paru en français aux éditions du Toucan et qui a été un énorme succès ici en Angleterre. On a l'impression que vous préférez un chaos seul, puisque aujourd'hui, du point de vue français, en tout cas, la situation politique anglaise semble complètement inextricable, plutôt qu'une solution collective pour tenter d'améliorer les choses.
First of all, the My book,
Mon livre, L'étrange suicide de l'Europe, il ne s'agit pas de l'Union européenne, il s'agit plutôt de la décision folle, catastrophique, et des décisions qui ont été prises depuis deux générations sur l'immigration et l'échec de l'intégration dans tous les pays de notre continent. Et je pense que cette situation n'a pas été améliorée par l'Union européenne, mais je séparerais ces deux choses-là. Ensuite, une autre chose très importante, et c'est très basique, mais je pense qu'il faut que je le redise parce que nous sommes à un moment où les gens sont mal représentés, mal entendus, et ce, de manière délibérée. L'Europe et l'Union européenne sont des choses très différentes. Et je n'aime pas entendre dire les gens que le Brexit, ça veut dire qu'on déteste l'Europe, ou qu'on hait l'Europe, ou qu'on n'aime pas les Européens. Ça, c'est vraiment un mensonge dégoûtant sur des gens comme moi. Il n'y a rien dans ce vote qui dit légitimement que l'on déteste les étrangers, qu'on n'aime pas l'Europe, ou qu'on n'aime pas les cultures européennes, des choses comme ça. Vraiment, ce sont des mensonges de base qui doivent s'arrêter. Et nous, comme je disais, en Grande-Bretagne, nous sommes préoccupés parce qu'on ne comprend plus le mécanisme qui nous gouverne aujourd'hui. Alors, si vous essayez de sortir d'une structure qui a été créée pour ne pas permettre aux gens de partir, et si vous avez un Parlement comme le nôtre ici en Grande-Bretagne, dont la majorité est contre le fait qu'on quitte l'Union européenne, eh bien, forcément, on va avoir des difficultés graves pour partir. Après, si le Premier ministre, c'est quelqu'un qui a fait campagne pour rester, et vous, en tant que pays, vous voulez partir, eh bien, vous aurez des problèmes pour partir. Donc, oui. Disons que nous n'avons pas montré très bien aux gens comment quitter l'Union européenne de façon ordonnée. Il y a quelques semaines, j'étais en Italie, un politicien italien, un ami m'a dit, eh bien nous on voit ça et on se dit, vous n'êtes même pas dans l'euro et vous, on pensait que vous étiez organisé. Si vous n'arrivez pas à partir, on a quoi nous comme chance de partir de manière ordonnée? Donc oui, nous n'avons pas vraiment montré comment la démocratie devrait se passer. Mais néanmoins, je peux parier que dans quelques années, ce sera bien mieux que les Britanniques aient dit qu'on souhaite savoir comment on est gouverné et nous serons en meilleure position pour cela. J'espère que les autres seront aussi dans une bonne position, mais on verra.
Dites donc, Douglas Murray, vous dites que les journalistes étrangers, moi par exemple, mentent en disant que vous détestez l'Europe, que votre livre est profondément europhobe, mais la campagne du Brexit, elle s'est faite sur des mensonges, sans fake news comme on dit en français. Il n'y aurait probablement pas eu de Brexit. Vous faites nom de la tête, expliquez-nous pourquoi.
Non. Preposterous.
Non, c'est ridicule.
C'est preposterous.
C'est vraiment ridicule.
The British government.
Parce que le gouvernement britannique a essayé de nous faire voter pour rester. Et il a dépensé des millions de livres d'argent du contribuable pour faire campagne et pour dire aux Britanniques de voter pour rester. Remain. Et aujourd'hui, les journalistes nous disent, mais non, pas du tout. C'était à l'arrière d'un bus. C'était un message qui avait été mis sur un bus de la campagne Leave qui a vraiment trompé les Britanniques, simple et stupide. rapide. Et non, il faut vraiment se demander sérieusement pourquoi les Britanniques ont voté pour partir. Et c'est ce que je dis, il faut comprendre les vrais problèmes. Et les vrais problèmes, ce ne sont pas des problèmes qui sont arrivés à cause d'un bus pour une campagne en 2016 ou parce que quelqu'un, une fois, a pris de l'argent dans un compte en banque qui n'était pas officiellement pour la campagne. Ça, ce sont des complots, les mêmes complots qu'on a partout, la Russie, tout le temps. Il y a toujours quelqu'un qui a pris des paiements, soi-disant, de la Russie. Ça n'est jamais prouvé. Alors, sérieusement, les Britanniques, ça fait des décennies qu'ils s'inquiètent de notre relation avec l'Union européenne. Et plus spécifiquement, nous avons choisi de rejoindre le marché commun. Et après Maastricht, nous avons commencé à nous inquiéter de plus en plus d'une chose. Une phrase en particulier, une union de plus en plus proche. Nous ne voulions pas le faire. Et c'est ce que je disais à Berlin l'autre jour. Je disais, eh bien, pourquoi est-ce que l'on ne pouvait pas dire qu'on fait une union jusqu'au moment où on perd le public? Pourquoi ne pas avoir dit cela? C'était une erreur très grave de ne pas dire « nous sommes unis jusqu'au point où le public n'est plus avec nous ». Mais non, il faut toujours se rapprocher. Et on me l'a dit aussi l'autre jour à Berlin, une fois de plus, il faut toujours être plus proche, même si le public n'est pas d'accord. Donc non.
Douglas Murray, je vais vous faire tomber un peu de votre chaise. Il est tôt à Londres, puisqu'il est 6h54, tandis qu'il est 7h54 en France. Vous avez publié ce livre, L'étrange suicide de l'Europe, immigration, identité, islam. Et bien souvent, le multiculturalisme anglais a été montré en exemple en disant, voilà, en Angleterre, il y a effectivement une coexistence beaucoup plus pacifique qu'en France, par exemple. Le racisme y est moindre. Votre réaction à ce regard que nous posons, Français, parfois, sur votre pays?
Well, a very interesting phenomenon of recent years, I would say.
Récemment, un phénomène très intéressant, je dirais, au cours des deux dernières décennies en particulier, c'est qu'on a abandonné le modèle. Et ce que je veux dire avec ça, en 2001, il y a eu des émeutes dans le nord de Londres, et à l'époque, on disait que peut-être le modèle français d'intégration était meilleur. Et d'ailleurs, il y a des avantages très, très importants au modèle d'intégration en France. Et on se disait à l'époque que la France était peut-être le bon modèle. Et malheureusement, il y a eu des émeutes dans les banlieues. Quelques années plus tard, on a arrêté de parler du modèle français. Aujourd'hui, personne ne parle du modèle français, ni d'ailleurs du modèle britannique. Alors que faire lorsque les modèles s'effondrent? D'habitude, on va vers la Scandinavie. Ça doit être le modèle scandinave, danois, norvégien, suédois. Ils ont un modèle. Et aujourd'hui, plus personne ne parle du modèle suédois non plus. Parce que, un par un, les gens, on voit qu'il y a le même problème partout. Alors, on en parle beaucoup, ce sont des débats, il y a des différences très intéressantes entre tous nos pays, de notre continent, mais principalement, il n'y a plus un modèle à suivre. On dirait, par exemple, on dirait plus qu'on veut le modèle américain, non? Il n'y a plus de modèle aujourd'hui.
Je vais vous proposer un modèle, le modèle canadien.
Bien, le modèle canadien, c'est en fait une version du rêve scandinave. Et tout d'abord, c'est un pays qui a beaucoup de problèmes, qui est très divisé, un pays qui continue à gérer ce problème toujours aujourd'hui, et ça ne me semble pas très évident. Il y a plein de problèmes d'intégration, je les ai observés moi-même au Canada, et je ne dirais pas que le Canada c'est la solution non plus. En fait, ils ont plus ou moins les mêmes problèmes que nous. Et la cause, je dirais, c'est une chose très basique, c'est qu'on fait des expériences dans des pays comme le vôtre, comme le mien, des expériences qui pourraient marcher, des expériences où des millions de personnes deviennent et d'autres cultures arrivent et on essaye de faire que ça marche peut-être, mais le problème c'est que peut-être ça ne marche pas. Et c'est une expérience sur une génération qui pourrait se passer très très mal, une vraie catastrophe, et on ne le sait pas encore. Donc moi, ce que je dis, c'est que l'expérience que l'on fait dans nos pays, dans nos sociétés, c'est un peu comme faire une expérience pour essayer de trouver une solution à une maladie, et on essaye sans avoir fait de tests en laboratoire et sur un enfant, son propre enfant.
Bon, mais alors qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui, Douglas Murray ? Est-ce que vous faites partie de ceux qui veulent une Angleterre blanche, anglicane ? C'est ça votre modèle ?
Non. Non. Let's be serious about this again. We can't
très sérieusement, on ne peut pas simplifier ou mal caractériser des problèmes qui sont très complexes. Des différences très complexes et importantes entre l'analyse d'un pays et d'un autre. Je ne pense pas qu'il soit souhaitable ou possible d'être quelque chose que nous étions il y a 5 ou 6 décennies. Je ne le souhaite pas. D'ailleurs, ce ne serait pas possible. Ce que je propose, c'est de faire très attention à notre avenir, attention quant à ces grandes expériences, et puis de faire très attention sur le fait de faire semblant. Quand on importe des millions de personnes de cultures complètement différentes, on voit que les résultats sont toujours les mêmes. Parce que mon observation, eh bien, en fait, c'est que ce n'est pas le cas. Et ça n'a jamais été le cas, ça n'est le cas nulle part, et ça n'est pas le cas maintenant. Et il y a plusieurs éléments ici qui sont importants. Tout d'abord, il y a la rapidité de l'arrivée des migrants et le nombre. Quand vous allez à Stalingrad, à Paris, il y a des rangs de personnes qui vivent dans des tentes, vous le savez. Et c'est un peu la raison. C'est une différente version de cela dans les différents pays du continent. Donc, il y a le nombre de personnes. Il faut ralentir l'arrivée. Et puis, il faut demander aussi l'identité des gens qui arrivent. Il n'est pas possible de dire qu'un Belge va aller en France et c'est la même chose que quelqu'un qui arrive d'Érythrée.
Merci beaucoup, Douglas Murray, de nous avoir donné votre vision de l'Europe du Brexit, l'étrange suicide de l'Europe, immigration, identité, islam. Votre livre paru en français aux éditions du Toucan, vous étiez traduit par Emmanuel Rivière. Dans une 20aine de minutes, toujours en direct de Londres, nous recevrons un autre auteur avec un autre regard sur le Brexit, Philip Sands, avocat spécialisé dans la défense des droits de l'homme. Nous sommes à Londres pour évoquer le Brexit, bien sûr, en compagnie de Philip Sands, avocat spécialisé dans la défense des droits de l'homme, professeur de droit au University College de Londres et auteur notamment de Retour à Lemberg, publié en 2017 chez Albin Michel. Frédéric Seyss parlait, Philip Sands, de la campagne en France pour les élections européennes, mais je crois qu'aujourd'hui, aussi étonnant que cela puisse paraître, il y a aussi un début de campagne en Angleterre pour les élections européennes.
Oui, tout à fait, très bizarre comme élection, parce que c'est une élection qui ne devrait pas avoir lieu, et on ne sait même pas si ces élections qui ont lieu dans quelques semaines maintenant, en Angleterre aussi, si les parlementaires qui sont élus vont siéger. Ça dépend si ou non il y a un accord avant le 22 mai.
Et alors, du coup, quel pourrait être l'enjeu? Parce que ça va quand même vous permettre, à vous, les Anglais, de faire de la politique intérieure.
En fait, l'enjeu est important parce que pour cette élection, on pourrait dire d'une partie qu'il y aurait très peu de personnes qui vont aller voter. La dernière fois, 2014, seulement 37% de la population a voté. Mais là, parce que le Brexit joue un rôle important dans la vie politique, c'est possible que les gens qui sont pour ou qui sont contre vont s'exprimer en votant. Le parti qui s'inquiète le plus, c'est le Parti conservateur, apparemment, parce que il y a deux partis anti-Brexit maintenant, le parti UKIP, mais aussi un nouveau parti parlementaire qui sera créé par Nigel Farage, le Brexit Party, et on suppose qu'ils auront un grand vote. Mais de l'autre côté, pour l'anti-Brexit, c'est aussi possible que les gens, surtout les jeunes, s'expriment pour la première fois en votant.
Et alors, du coup, quel pourrait être l'avenir de l'Angleterre dans le Brexit? Parce que nous, les Français, Philip Sands, on a de plus en plus de mal à comprendre ce qui se passe chez vous. Et comment percevez-vous les choses? Quels sont les scénarios les plus probables pour vous?
Nous, les Britanniques aussi, on est perturbés, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Bon, pour moi, une chose qui a toujours été sûre, que l'idée de no deal, pas d'accord, n'aura pas lieu.
Pourquoi?
Et moi, j'enlève, parce que maintenant, le Parlement britannique a enlevé complètement cette possibilité. Bon, c'est possible que le président Macron et les leaders européens disent non, on veut que le Royaume-Uni part sans accord. À mon perspective, ça ne se passerait pas.
Antoine Gignoux, correspondant de Radio France à Londres.
Philippe Sands, est-ce que pour vous, il n'y a pas aussi un phénomène démographique qui est en train de jouer? Vous parliez des jeunes qui vont voter Remain. On a beaucoup dit ces dernières semaines que la génération qui a voté Brexit, finalement, les vieux sont en train tout simplement de disparaître. Est-ce qu'il n'y a pas cet effet-là qui joue un peu?
On parle d'un certain effet. Alors, depuis le premier référendum, ou le référendum, en juin 2016, apparemment, 1 million des plus âgés ne sont plus parmi nous. Et il y a en plus 700 000 personnes qui n'avaient pas 18 ans en juin 2016, qui ont maintenant 18 ans et la possibilité de voter. Ces 2 millions de votants peut en effet tout changer. Et c'est vrai que maintenant, depuis un an, tous les sondages démontrent que Remain, rester en Europe, a l'avantage et est en avant maintenant dans l'opinion publique. Alors, il y a peut-être un changement. C'est pas un changement énorme, mais il y a un changement qui est en train d'avoir lieu.
Mais on a l'impression malgré tout que l'opinion publique britannique est très clivée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un camp qui se détacherait nettement par rapport à l'autre, Philippe Sands. Est-ce que ça ne signifie pas aussi que ce Brexit, il vient d'une partie de la population britannique qui n'en peut plus de ces inégalités, de cette situation très particulière dans laquelle est Londres? Là, on est à Londres, mais il y a une richesse qui est bien souvent obscène à Londres et qui choque le reste de l'Angleterre.
Tout à fait, c'est exactement comme ça. On doit comprendre qu'en fait, le vote pour le Brexit était une vote contre the establishment britannique. C'était une façon de démontrer qu'on en a marre. Et il demeure toujours, pas peut-être une majorité, mais un très grand pourcentage, presque 50%. Le pays est complètement divisé, mais les divisions ne sont pas égales. Alors, par exemple, l'Irlande du Nord, l'Écosse a voté pour rester dans l'Union européenne. Le Londres, plus de 70% pour rester. Alors, c'est un pays très, très divisé, mais je pense qu'on voit maintenant, on prend une direction, vous avez posé la question, on va dans quelle direction? Alors, no deal, pour moi, c'est hors question.
Donc ça, c'est pour vous improbable.
Oui. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est ou de rester dans l'Union européenne ou de partir avec un accord. Et quelle sorte d'accord? Theresa May, en ce moment, est en train de négocier directement avec le leader du Parti travailliste, Jeremy Corbyn, pour trouver un accord. Je sais un peu ce qui se passe dans ces négociations. C'est pas à exclure la possibilité qu'il y aura un accord, mais l'aspect tout à fait clé de savoir si oui ou non il y aura un accord, c'est la question d'un deuxième référendum. Pour le Parti travailliste, ils sont prêts à faire un accord s'il y a une vote confirmatoire sur l'accord, c'est-à-dire un deuxième référendum.
Et ça, est-ce que vous pensez que c'est une possibilité, le deuxième référendum? Parce que on entend souvent dire que finalement, on va faire revoter le peuple jusqu'à temps qu'on ait un résultat qui satisfasse les élites.
Jusqu'à la semaine dernière, j'aurais pensé que c'était à 10% ou 20% de la possibilité. Ça a monté jusqu'à 30%, mais maintenant, aujourd'hui, pour la première fois, j'ai écrit dans un petit article, c'est plus de 50%.
Pourquoi?
Parce que c'est une question complexe, mais parce que d'abord, le gouvernement n'est plus capable de mener. Alors, le gouvernement est vraiment parti de la question. Alors, tout est maintenant retombé.
Le gouvernement n'est plus capable de mener, changeons de gouvernement. Enfin, surtout vous, les Anglais.
Les conservateurs ne veulent pas une élection générale parce qu'ils ont très peur en ce moment que ça ira très mal. Alors, tout se repasse envers le Parlement, mais le Parlement est en deadlock complète. Pas capable. Une impasse total, pas capable de prendre une décision. Dans ce contexte, si on veut une décision qui est sustainable, soutenable à long terme, il faut trouver un moyen pour une expression claire de la population. Et pour moi, maintenant, je pense que ça prend cette direction. Et on voit maintenant, avec les commentateurs Peter O'Born, Roger Ferrari de LBC, qui ont changé de direction. Et si on parle aussi avec la population londonienne la plus importante, chauffeurs de taxi, là, on voit un changement. Moi, la semaine dernière, j'ai pris 4 taxis. Et pour la première fois, tous les 4 m'ont dit, j'ai voté pour le Brexit, mais maintenant, ou je ne sais plus, ou je change de direction.
Antoine Gignot, est-ce que finalement le problème est pas au-delà de la politique? Parce que vous parlez du gouvernement, du blocage, on a parlé beaucoup du Parti conservateur qui est très divisé. Vous nous dites, le deuxième référendum, c'est la solution qui peut être négociée avec le Parti travailliste, mais le Parti travailliste lui-même, sur le sujet, est très divisé. Alors, est-ce qu'on va vraiment, un jour, en sortir de ce débat-là?
D'abord, je ne dis pas que le référendum est une solution, parce que même si on a un deuxième référendum qui, ou rester dans l'Union européenne, gagne 52-48 ou 55-45, l'histoire ne serait pas finie. Ça va continuer pour des années maintenant, cette question, parce que le parti est complètement divisé. Mais en ce qui concerne le parti travailliste, maintenant, ils sont à 100% clair, et Corbyn l'a dit à Theresa May, il faut avoir une vote confirmatoire. Et la raison pour ça est importante. Le Parti travailliste a très peur que s'ils arrivent à un accord avec Theresa May, c'est fort probable que d'ici 3 mois, Theresa May n'est plus Premier ministre. Donc, il y aura un nouveau Premier ministre, que ce sera peut-être Boris Johnson ou on ne sait pas qui va dire « Ah non, je n'accepte pas du tout ce qu'elle a fait. »
Alors, on va faire un accord.
Voilà. Alors, il faut trouver un moyen dans le Parlement ou avec le Parti travailliste de s'accrocher à long terme sur cet accord.
Mais parmi les choses que l'on comprend peu, voire pas du tout en France, il y a le jeu d'acteurs qui est actuellement en cours sur la scène politique anglaise. Que cherchent les différents partis? Que veut la gauche et la droite, s'il est possible, d'employer ces catégories pour la scène politique britannique, qui finalement est encore favorable au Brexit? Et pourquoi, Philippe Sand?
Ce qui est devenu vraiment intéressant, pour la première fois dans la politique britannique, ce n'est pas une question de gauche ou de droite. Alors le parti conservateur, complètement divisé.
Mais pourquoi?
Il y a eu, par exemple, pour donner un exemple, il y a 2-3 jours, une vote sur l'extension de l'article 50. Le parti conservateur...
L'article 50, c'est l'article...
Pour donc... quitter l'Union européenne. Extension pour 6 semaines, ou pour 6 mois, ou pour 1 an. Le débat qui a eu lieu avec le président Macron récemment, il y a quelques jours. Et comment ils ont voté, le parti conservateur? Ils ont divisé en 3 parties. Une partie contre l'extension, une partie pour l'extension, une partie... c'est abstenu. Alors, les conservateurs complètement divisés, il y a une unité dans le Parti travailliste et le Scottish National Party et les libéraux-démocrates. Et là, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que le changement qui a eu lieu dans les dernières semaines, c'est depuis 2 ans et demi, le jeu joué par Theresa May, c'est de mettre les intérêts du Parti conservateur avant les intérêts du pays. Et le changement qui a eu lieu il y a 3 semaines, quand Theresa May a dit « je vais parler avec l'opposition », c'est pour la première fois elle s'est dit « j'ai besoin de l'opposition pour arriver à un accord à long terme ». Et ça, c'est un changement important qui mène à une sorte d'implosion du parti conservateur.
Antoine Gignot, changement de ton aussi. Quand on revient un peu en arrière, vous l'avez vécu comment, vous, l'immédiat après référendum 2016, si on compare l'automne 2016 avec la situation dans laquelle on est aujourd'hui, on a, même dans la façon de s'adresser au pays, de la part des conservateurs, de la part du gouvernement, un changement radical.
Alors, la question qu'on se poser tout, c'était à quel moment est-ce que Theresa May allait craquer? Parce que pendant 2 ans et demi, elle a dit très fortement...
Je bouge pas.
Je ne bouge pas. No deal is better than a bad deal. Un mauvais accord, pas d'accord, est mieux qu'un mauvais accord. Et là, ça a duré jusqu'il y a 3 semaines. Et finalement, il y a 3 semaines, elle a dit pour la première fois non. Un pas d'accord, ça serait très mauvais. Mais pourquoi? Et là, c'est important. Et là, c'est l'aspect le plus important. Et il y en a plein de personnes qui l'ont dit. parce que une absence d'un accord mènera à une destruction du Royaume-Uni. Disparition de l'Irlande du Nord, peut-être aussi disparition de l'Union de l'Écosse. Et ça, elle a reconnu il y a 2 semaines.
Philippe Sand, justement, il y a beaucoup d'interrogations sur la personnalité même de Theresa May et son entêtement, et la manière dont elle gravit les différentes étapes du Brexit, où d'ailleurs il n'y a pas d'étape, c'est quasiment du surplace, c'est un Golgotha sans montée véritable. Comment expliquer, en quelque sorte, l'entêtement de cette femme et à la fois, semble-t-il, son impopularité dans la classe politique britannique?
Impossible d'expliquer. Cette femme, c'est une mystère complète. Alors, j'ai un ami très proche qui la connaît assez bien, qui avait un rôle en gouvernement qui a duré plusieurs années, quand elle était Home Secretary, ministre de l'Intérieur, après que son terme est fini, il est parti, elle l'a invité à dîner, ils ont dîné ensemble à deux. Il m'a expliqué que pendant 2 heures, il a posé plusieurs questions. Pour chaque question qu'il a posée, la réponse était monosyllabique, oui, non. Et elle a posé aucune question pendant 2 heures.
Bon, elle était prête
à passer un dîner ensemble pendant 2 heures en silence. Ça, c'est Theresa May. Et pour comprendre Theresa May, moi, j'ai toujours cette anecdote en tête. C'est une mystère. Il n'y a pas de réponse à votre question. On ne comprend pas.
Et alors, si votre ami avait dîné avec Jeremy Corbyn, quelle aurait été, en quelque sorte,
j'ai l'impression, c'est une impression seulement, que Jeremy Corbyn ne s'intéresse pas du tout au Brexit. Et il n'est pas vraiment au niveau de maîtriser les points de détail. Apparemment, on dit qu'avec cette question du backstop en Irlande du Nord, c'est-à-dire arriver à un accord pour éviter d'un hard border entre l'Irlande du Nord et l'Irlande.
La question de la frontière.
Bien entendu, une question cruciale. Une fois par semaine, il demande à ses collègues, cette question de backstop, est-ce que vous pouvez me l'expliquer encore une fois? Parce que vraiment, je comprends pas très bien comment ça marche. C'est pas pour lui important. C'est pas quelque chose qui le motive. Et ça, on a une situation, c'est triste un peu en Royaume-Uni en ce moment, d'avoir deux leaders qui sont peut-être pas vraiment au point, qui sont pas vraiment capables de maîtriser les conséquences, les détails. Mais c'est vrai aussi qu'on voit un changement avec Theresa May en ce moment.
Mais, bon, vous ironisez, on comprend bien pourquoi, mais semble-t-il l'accord, le dernier accord, celui qui a été une fois de plus repoussé, il faisait 600 pages, ce qui témoigne quand même de l'affreuse complexité de cet accord possible. Vous êtes avocat, et j'imagine que ça a donné énormément de travail aux avocats, puisque c'est un accord juridique. L'idée, en fait, c'est de passer d'accords bilatéraux à des accords multilatéraux. Comment imaginer, avec la complexité des normes juridiques actuelles, un cadre juridique qui serait négocié de l'Angleterre avec chaque pays? Comment on peut faire ça?
C'est très complexe. Et je pense que la population commence à comprendre maintenant que la décision qui a été soumise à eux il y a presque 3 ans, oui ou non, rester dans la communauté européenne, l'Union européenne, était d'une complexité où les gens ne s'attendaient pas vraiment à une compréhension de tous les détails. Qu'on a besoin de 600 pages pour régler cette question de quitter l'Union européenne, ça démontre en fait une grande complexité. Et une chose qui a sûrement changé entre juin 2016 et avril 2019, c'est que c'est très complexe.
On entend aussi des sommes folles qui ont été dépensées pour penser le rien, puisqu'actuellement il n'y a rien. Et par exemple, combien a coûté l'hypothèse du no deal?
Statistique de ce matin, 6000 fonctionnaires ont travaillé sur ça depuis les derniers mois, et aujourd'hui on leur dit arrêtez, ne travaillez plus sur ça. Le coût de ça, c'était à peu près 2 billions d'euros. C'est une somme énorme.
Est-ce que cette question économique a pas finalement aussi aujourd'hui un impact sur le fait qu'on revienne un petit peu en arrière? On a entendu beaucoup ces dernières semaines les financiers et notamment ceux qui donnent de l'argent au Parti conservateur. Un tiers des fonds du Parti conservateur viennent de fonds privés. Et c'est ces gens-là aujourd'hui qui disent peut-être là, il faut arrêter la comédie. La CBI, l'organisation patronale, l'a beaucoup dit. Vous le vivez comment, vous? Est-ce qu'il n'y a pas, au-delà des querelles économiques, est-ce qu'il n'y a pas pas un simple effet levier, un simple effet économique dans toute cette campagne.
C'est vrai que maintenant, le Parti conservateur a du mal à obtenir des fonds pour son programme politique et électoral. Et ça concentre l'attention. Et c'est clair aussi que les aspects financiers jouent maintenant un rôle cardinal.
Alors, il y a eu de nombreuses déclarations, à tort et à travers, contradictoires les unes avec les autres, mais il y a eu une déclaration de Theresa May qui a été particulièrement importante sur la manière dont les citoyens britanniques devaient se comporter. On l'écoute, Philippe Sands.
Aujourd'hui, trop de personnes qui sont dans une position de pouvoir se comportent comme si elles avaient plus en commun avec l'élite internationale qu'avec les gens qui sont en bas de la rue, les personnes qu'elles emploient ou qu'elles croisent dans les rues. Mais si vous pensez que vous êtes un citoyen du monde, vous êtes un citoyen de nulle part. Vous ne pouvez pas vraiment comprendre ce que le mot « citoyenneté » signifie. Donc si vous êtes un patron qui gagne une fortune, mais qui ne prend pas soin de ses équipes, une compagnie internationale qui considère les impôts comme une option en extra, qui refuse de travailler avec les autorités, même pour lutter contre le terrorisme, un PDG qui reverse des dividendes énormes, tout en sachant que son entreprise est sur le point de faire faillite. Je vous mets en garde, ça ne peut plus continuer, un changement doit se produire et notre parti va opérer ce changement.
La voix de Theresa May, alors c'était en 2016, c'était traduit donc par Antoine Gignot, il est 8h42 à Paris en France et 7h42 à Londres où nous sommes pour continuer à évoquer le Brexit en compagnie de Philippe Sands, avocat spécialisé dans la défense des droits de l'homme. On vous doit notamment l'ouvrage Retour à Lemberg qui a été publié chez Albin Michel. Votre réaction par rapport à ce que vient de dire Theresa May?
Je connais très bien ce discours. C'était un moment catastrophique pour Theresa May parce que c'est le moment aussi où elle a marqué ses lignes rouges qui ont créé tous les problèmes avec le Brexit maintenant depuis 3 ans. Ça m'a évoqué immédiatement les écrits d'un très grand écrivain, Stefan Zweig, qui a écrit le livre Le Monde d'hier et qui a dit qu'il avait passé toute sa vie à devenir un citoyen du monde. Et à ce moment-là, en écoutant Theresa May, j'ai pensé à Stefan Zweig et à ce qui s'est passé après 33 en Europe. C'était un moment catastrophique et c'est un moment que maintenant on revient sur les paroles de Theresa May en octobre 2016 au moment où elle a s'adressé pour la première fois au Parti conservateur et on comprend que c'est dans ces mots que le catastrophe pour elle a été créée.
Mais alors, est-ce que c'est de la politique? Une partie de démagogie, c'est-à-dire elle a bien vu que finalement le Brexit procédait d'une forme de volonté de se retrancher dans l'insularité britannique. Et alors donc, elle emploie ces termes pour donner le change, ou bien est-ce véritablement sa conviction, Philippe Sands?
Je ne pense pas qu'elle a de conviction. Je pense qu'elle a utilisé le moment pour démarrer dans une direction qu'elle comprenait très peu.
Elle comprenait très peu ce qui se passait et aujourd'hui, du coup, est-ce que la position des autres conservateurs a évolué, Philippe Sands?
Il y a plusieurs parmi les conservateurs qui ont évolué. Je pense à Michael Gove qui était très pour le Brexit. J'ai l'impression que maintenant, lui, il change de direction. On a une élection des leaders qui va venir dans 3 mois, dans 6 mois, on ne sait pas exactement. Mais Theresa May va continuer, on ne sait pas pour combien de temps, mais il y aura certainement bientôt un nouveau leader qui sera très pour le Brexit et ça va changer les choses.
Antoine Gignot,
comment est-ce que vous voyez le déroulé des dernières semaines finalement? Est-ce que il était anticipable ce report du Brexit? Est-ce qu'on pouvait imaginer qu'on en serait aujourd'hui? Est-ce que vous l'imaginiez?
Moi, j'ai toujours cru qu'en fait, rien n'allait vraiment changé parce que les complexités étaient d'un niveau que dès qu'on comprenait les conséquences de quitter l'Europe, il y aura un changement de direction. Même si le Royaume-Uni quitte l'Europe, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas un grand changement. Il y aura ou un accord où le Royaume-Uni resterait très proche à l'Union européenne, où le Royaume-Uni ne quitterait pas l'Union européenne. Ça a toujours été ma perspective et je maintiens cette perspective.
Philippe Sands, vous êtes avocat spécialisé dans les droits de l'homme. J'aimerais en conclusion votre réaction sur l'arrestation de Julian Assange qui s'est déroulée hier à Londres et nous nous trouvons à Londres.
Alors là, il a apparu devant un tribunal hier et déjà il sera emprisonné pour au moins un an. La grande question qui se pose ce matin à Londres, c'est est-ce qu'il y aura une extradition de Julian Assange envers les États-Unis? Et l'intervention intéressante de ce matin, c'est l'intervention de Jeremy Corbyn, leader du Parti travailliste, qui dit absolument Assange ne doit pas être envoyé aux États-Unis. Alors il y a encore un nouveau clivage entre le Parti conservateur et le Parti travailliste, la direction de Julian Assange.
Mais que dit le droit? Et le droit ici, c'est vous, Philippe Sands.
Le droit anglais le plus important dit qu'on ne peut pas envoyer quelqu'un à un pays où il y a la possibilité qu'il sera soumis à la peine de mort. Et si on ne peut pas exclure la possibilité que Assange serait soumis à la peine de mort, il ne sera pas envoyé aux États-Unis.
Mais alors peut-on l'exclure ou pas aux États-Unis?
C'est la raison pour laquelle les États-Unis hier a dit qu'ils demandent seulement 5 ans d'emprisonnement pour Julian Assange. C'était une façon de dire immédiatement pas de peine de mort pour Julian Assange. Il y aura plein de débats dans les jours qui viennent et dans les semaines qui viennent sur cette question.
Donc l'extradition semble possible. Merci beaucoup Philippe Sands d'avoir évoqué avec nous le Brexit, la situation de votre pays. Merci à Antoine Gignot.